Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine brandit la menace de l'arme nucléaire, une montée en gamme de la part de Moscou qui marque d'une certaine manière le retour de cet armement dans le discours géopolitique. Alors que pendant la guerre froide, l'arme nucléaire était destinée à ne pas être employée et que depuis la tentation était grande de considérer les armes nucléaires et la stratégie de dissuasion comme des vestiges d'un passé révolu. Regard sur la place du fait nucléaire dans les équilibres stratégiques et combien brandir les armes nucléaires change la donne, régionalement ou mondialement. Nos invités par téléphone, l'amiral Jean-Louis Lozier, conseiller auprès de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Bonjour.
Bonjour.
Et en studio, Benjamin Haute-Couverture, historien et politologue, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Bonjour.
Bonjour.
Vladimir Poutine a rompu avec tous les tabous et va contre toutes les règles généralement admises. Agression militaire sans déclaration de guerre, ni mandat des Nations Unies d'un pays souverain qui ne le menaçait pas. Le chef du Kremlin a déclenché au XXIe siècle une guerre en Europe, défié ouvertement l'OTAN et les opinions publiques, et même menacé de monter aux extrêmes le premier jour d'une opération militaire classique par l'emploi tactique du feu nucléaire. Le nucléaire est un puissant levier stratégique, un outil de négociation ou de chantage. Sommes-nous, amiral Lozier, face à une crise internationale à dimension nucléaire ?
Alors, la crise actuelle, la crise russe, puisqu'il s'agit plus d'une crise russe qu'une crise ukrainienne, a bien évidemment une dimension nucléaire. Depuis le début de la crise et avant même le début de l'invasion le 24 février dernier, le pouvoir russe avait déjà envoyé des signaux nucléaires. Il l'avait fait notamment à l'issue d'une rencontre avec le président de la République, le président Macron, le 7 février dernier, lorsque le président Poutine avait rappelé que, certes, la Russie avait probablement moins d'armement conventionnel ou était probablement dans un rapport de force défavorable par rapport à l'OTAN dans le domaine conventionnel, mais que dans le domaine nucléaire, ils avaient des armes modernes et que le cas échéant, il fallait s'en souvenir. Donc, bien avant l'invasion, le président Poutine avait envoyé des signaux à dimension nucléaire. Il l'a refait de façon explicite en mettant en alerte ses forces nucléaires le 27 février dernier. Ce étant, cette mise en alerte des forces nucléaires ne signifie pas, contrairement à ce qui a été retenu par beaucoup, qu'il a menacé d'employer des armes nucléaires tactiques. En l'occurrence, le terme n'a pas été utilisé ni par le président Poutine, ni par aucun de ses subordonnés civils ou militaires. Néanmoins, la mise en alerte de ces forces nucléaires était évidemment un signe fort qui n'avait pas été utilisé, je dirais, depuis la guerre froide. Donc c'est effectivement un retour de la stratégie nucléaire et qui nous demande, hein, qui exige de nous, de redécouvrir ce que l'on appelle la grammaire nucléaire.
Alors, retour de la stratégie nucléaire, Benjamin Haute-Couverture, à mesure finalement que la guerre se poursuit, est-ce qu'on s'éloigne ou on se rapproche du feu nucléaire ?
Je dirais, et je prends quand même pas mal de précautions ce disant, que depuis 5 semaines maintenant, nous n'avons jamais véritablement été proches du feu nucléaire. Et de ce point de vue-là, je complète ce que vient de dire l'amiral Lozier en allant dans le même sens. Il ne s'est jamais agi de brandir la menace d'emploi d'armes dites tactiques ou éventuellement d'armes de champ de bataille ou d'armes de faible intensité. Mais depuis le début, il y a une espèce d'environnement nucléaire, de présence du facteur nucléaire, de telle sorte que les Russes se sentent libres d'agir sur le territoire ukrainien en sanctuarisant ce territoire pour mener à bien leurs opérations conventionnelles. C'est une utilisation, disons, coercitive, agressive de la dissuasion nucléaire, mais c'est toujours l'une des modalités de la dissuasion nucléaire. Et rien dans le discours russe officiel, ni dans les mouvements de troupes, ni dans ce qu'on peut observer sur le terrain, n'indique une quelconque menace d'emploi de l'arme nucléaire depuis le début des opérations. Et on a beaucoup de signes qui le documentent, cela.
Pas d'indication de menace, vous êtes d'accord, amiral Lozier? Et peut-être aussi une précision pour nos auditeurs, quel distinguo faire entre l'arme tactique, l'arme nucléaire tactique et l'arme nucléaire stratégique? C'est quand même important, puisque vous avez prononcé chacun à deux reprises le mot d'arme nucléaire tactique. Amiral Lozier.
Ce sont d'abord des armes nucléaires. Et en fait, je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a plus forcément grand-chose qui les différencie. Cette différence existait effectivement dans les années 50, hein, où elle était très explicite. Il y avait des armes qui étaient vraiment des armes dites de champ de bataille. Vous aviez dans les arsenaux de l'OTAN ou de la Russie des canons qui pouvaient tirer des obus à charge nucléaire. Vous aviez des mines nucléaires, même des lance-roquettes nucléaires. Et donc il y avait effectivement des portées relativement limitées et qui étaient destinées à être utilisées sur le front, sur le champ de bataille. Et puis, vous aviez, à contrario, les armes dites stratégiques, portées, par exemple, par le Strategic Air Command de l'US Air Force. Bon. Cette distinction, finalement, elle a fini par s'affaiblir progressivement. La France a fait cette distinction, effectivement, dans les années 60 et 70. Et dans les années 80, le président Mitterrand a clairement rappelé que les armes nucléaire était tout à caractère stratégique. Alors aujourd'hui, il existe toujours de fait une différence, notamment pour les Américains et les Russes, entre armes stratégiques et armes tactiques, puisque les armes stratégiques sont celles qui sont prises en compte dans les traités de limitation ou de réduction des armements nucléaires, comme le traité New START actuellement en vigueur, qui distingue bien d'une part des armes dites stratégiques, et donc les autres armes que l'on considère dans le langage courant comme étant des armes tactiques. Mais dans la réalité, ce sont toujours des armes nucléaires dotées d'une puissance de destruction incommensurable, hein, et qui donc de toute façon doivent rester frappées du tabou de l'emploi, hein, doivent rester des armes de non-emploi.
Alors, Benjamin de Couverture, pourquoi finalement avoir brandi cette menace côté russe? C'était inspirer la terreur aux adversaires, qui est un principe tactique assez élémentaire, mais tout de même nouveau.
Mais non, mais pour la raison précisément que la dissuasion nucléaire est un formidable outil paradoxal. C'est-à-dire que pour être une arme de non-emploi, comme ça vient d'être dit, pour être une arme politique, pour être une arme stratégique, il faut que son emploi soit crédible. Il faut que son emploi soit perçu comme possible par l'adversaire. Et ce faisant, l'arme d'emploi dont on peut user dissuade. Et en dissuadant, elle devient une arme de non-emploi. Et donc, en agitant le risque ou la menace nucléaire, on est à chaque fois dans la grammaire fondamentalement dissuasive sur le plan nucléaire. Et donc, il s'agit toujours de menacer d'une terreur pour précisément dissuader l'adversaire de ne pas agir ou de modifier son comportement comme on le souhaite. Et la dissuasion nucléaire réside dans ce paradoxe.
Vous êtes d'accord, amiral Lozier, avec ce que vient de dire Benjamin de Couverture?
Oui, je suis tout à fait en phase avec ce que vient de dire Benjamin. Dans la crise ukrainienne, en fait, je crois que le président Poutine a d'abord effectivement utilisé des signaux à caractère nucléaire de façon à dissuader les forces de l'OTAN d'intervenir directement en Ukraine. Et de fait, les trois puissances nucléaires appartenant à l'Alliance Atlantique, pour celles qui avaient des soldats déployés sur le territoire ukrainien, ce qui était le cas typiquement des Américains qui avaient un certain nombre d'acteurs militaires sur le territoire ukrainien, ont retiré leurs soldats du territoire ukrainien pour justement éviter une confrontation, le risque d'une confrontation directe entre des forces militaires américaine là, dans ce cas-là, et des forces russes. Hein. Puisque, effectivement, le message envoyé par le président Poutine était que l'Ukraine étant pour lui ayant une valeur extrêmement importante, hein, puisqu'il l'identifie finalement dans ses discours avec la Russie, hein, Et donc, il ne fallait absolument éviter le risque de confrontation directe. Et on se retrouve là-dedans, dans finalement exactement tout ce qui s'est passé pendant la guerre froide, où il y a eu des tas de confrontations, que ce soit au Vietnam, ou en Afrique, où il y a eu des confrontations entre l'Est et l'Ouest, mais où il n'y avait pas de confrontation directe entre des forces de l'Alliance Atlantique et des forces soviétiques à l'époque.
Avec tout ce que vous avez dit jusqu'à présent, l'un et l'autre, amiral Lozier, Benjamin Haute-Couverture, finalement, Vladimir Poutine a, d'entrée de jeu, délimité le terrain d'action et fixé les règles du jeu. Benjamin Haute-Couverture.
C'est-à-dire qu'il en a fixé certaines, en tout cas. Et il a fixé un cadre général. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la dissuasion nucléaire russe fonctionne de manière, disons, agressive, coercitive dans ce cas de figure, que en dessous du seuil nucléaire ne se mène pas une guerre conventionnelle qui, au départ, pouvait être conçue comme une guerre de faible intensité et qui très vite est montée à la haute intensité. Et ce faisant, nous avons là une guerre conventionnelle, État contre État, de haute intensité, un petit peu d'ailleurs comme l'avait déjà conceptualisé et prévu le dernier document de doctrine de l'armée de terre, à l'époque voulu et inspiré par le général Burkhardt, qui est maintenant notre chef d'état-major, et qui prévoyait que le modèle de l'armée de terre français devait se préparer à la haute intensité de guerre conventionnelle, État contre État. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe une guerre conventionnelle de cette nature qu'on n'aurait pas pu imaginer sous le seuil nucléaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le schéma d'une guerre nucléaire impossible, continue d'être tout à fait possible et de se réaliser sous nos yeux un conflit conventionnel de haute intensité. Ce qui nous permet d'ailleurs de nous poser la question de savoir ce que dissuade l'arme nucléaire. Je pense que c'est un cas d'école qui va nous obliger à reprendre notre grammaire nucléaire, à reprendre notre grammaire dissuasive et à repenser, à continuer de nourrir la réflexion sur la dissuasion pour se demander ce que dissuade l'arme nucléaire. Parce que là, on voit bien que sous le seuil nucléaire, il y a un conflit conventionnel et qui reste conventionnel et qui, normalement, et naturellement, je parle avec précaution parce qu'on ne sait jamais tout, il ne faut pas être certain sur ces sujets aussi graves, normalement, va rester conventionnel.
Alors, allons jusqu'au bout de ce débat. Amiral Lozier, de quoi dissuade l'arme nucléaire?
Alors, l'arme nucléaire française, puisque là on va d'abord parler de la dissuasion nucléaire française, si j'ai bien le sens de votre question, elle vise à dissuader tout agresseur qui aurait la volonté d'attenter à nos intérêts vitaux et de l'empêcher justement d'entreprendre cette agression. Et il s'agit bien d'abord d'une action, je dirais, psychologique sur la volonté de l'adversaire. Et donc, la dissuasion française, qui a une vocation strictement défensive, il faut le rappeler, elle vise à empêcher la guerre et elle vise à contrer toute menace d'origine étatique contre nos intérêts vitaux, d'où que vienne cette menace et quelle que soit la forme de cette menace. Ça, cette phrase, vous la retrouvez dans le discours du président de la République qu'il a prononcé en février 2020 à l'école militaire, et qui est une phrase que vous retrouvez pratiquement dans les discours de tous les présidents de la République depuis le début de la Ve République. Au cœur de cette défense, la notion de nos intérêts vitaux. Nos intérêts vitaux sur lesquels nous gardons toujours une certaine ambiguïté sur leur définition. Puisque l'incertitude ou l'ambiguïté stratégique est au cœur de la doctrine de dissuasion. Il ne faut jamais tracer de ligne rouge qui permettrait à un adversaire de dire, eh bien, tout ce qui est en deçà de la ligne rouge, finalement, je peux le faire puisque je sais que l'adversaire ne réagira pas. Il faut bien compliquer son calcul davantage risque, en gardant une ambiguïté sur la délimitation de nos intérêts vitaux. Alors, nos intérêts vitaux, traditionnellement, c'est évidemment à minima le territoire national, la population française, mais également notre mode de vie. Derrière le mode de vie, c'est comprendre finalement nos institutions de ce démocratie libérale. Mais on n'a jamais dit, et les présidents de la République n'ont jamais dit, qu'ils se limitaient au territoire national. Vous trouvez dans tous les discours toujours une certaine dimension européenne ou liée à notre participation à l'Alliance. On retrouve dans un discours du président de Gaulle en 1963, il dit « mais l'arme nucléaire que nous venons d'acquérir, elle peut aussi participer à la défense de nos alliés ». Dès 1963, c'était une notion qui était entendue. Depuis l'évolution et la construction européenne, les présidents de la République ont toujours tenu à dire qu'il y avait une certaine dimension européenne. Et ça a été dit de façon tout à fait explicite par le président Macron en février 2020, lorsqu'il dit « désormais, nos intérêts vitaux ont clairement une dimension européenne ». Donc ça veut bien dire qu'aujourd'hui, si un État s'en prenait à l'Europe, alors l'Union européenne et les pays européens membres de l'Alliance, eh bien le président de la République se poserait forcément la question de la mise en œuvre de notre dissuasion nucléaire. Et c'est bien ça que ça veut dire. Alors dans le cas de la crise ukrainienne, eh bien justement, l'Ukraine, de fait, ne faisait pas ni partie de l'Union européenne, ni partie de l'OTAN. Et elle était effectivement dans cette zone grise où finalement le président Poutine a pu penser qu'il avait une certaine liberté d'action pour agir.
Et l'Ukraine, dont on peut rappeler aussi, Benjamin, de couverture, il nous reste 2 minutes avant la fin de cette première partie d'émission, l'Ukraine qui, après l'effondrement du mur de Berlin, avait accepté de ne plus accueillir sur son territoire l'arme nucléaire. Il est tout de même bien évident que, je sais que vous n'aimez pas refaire l'histoire, mais que si l'Ukraine avait été détentrice de l'arme nucléaire, probablement que les troupes russes ne seraient pas entrées sur son territoire.
Alors probablement, en effet, et c'est une partie du débat actuel, puisque le processus de désarmement ukrainien entre 1991 et 1994, qui aurait été s'est terminé un petit peu plus tard, a été fondée sur l'idée qui était partagée par toutes les populations et par toute l'élite politique ukrainienne à l'époque, que l'Ukraine aurait davantage de risques sur sa sécurité si elle conservait l'arsenal dont elle héritait de l'URSS, c'est-à-dire à peu près 17% de l'arsenal total, c'était important, un gros arsenal, que si elle s'en débarrassait. Et en plus, c'était un pays qui n'avait pas les moyens techniques, industriels, financiers, d'assurer la maintenance de ces armes, si tant est à l'époque que les États-Unis et la Nouvelle-Russie les laissait faire, ce qui naturellement était impossible. C'est-à-dire qu'en réalité, les Ukrainiens n'avaient pas tellement le choix. Ils auraient pu, à l'époque, prendre une décision radicale, un petit peu gaullienne, comme ça, de dire « nous nous mettons à dos l'ensemble de la communauté internationale, nous luttons pour conserver l'arsenal non stratégique et stratégique hérité de l'URSS, parce qu'un jour, nous en aurons besoin face à une Russie agressive ». Alors, à ce moment-là, il aurait fallu un leadership politique, une force de volonté, une détermination considérable pour que les Ukrainiens fassent ce choix et soient un État nucléaire. Ce n'est pas la décision qui a été prise, mais naturellement, et d'ailleurs c'était un point du débat entre 1991 et 1993 dans la littérature américaine en particulier, s'ils avaient décidé et s'ils s'étaient donné les moyens, mais encore une fois c'est difficile de refaire l'histoire, à l'époque ça aurait été vraiment très difficile pour eux de le faire, d'avoir une dissuasion nucléaire, certainement l'histoire aurait été différente, évidemment, et c'est évidemment un point que regarde attentivement un certain nombre d'États dans le monde, bien entendu, on ne peut pas dire le contraire.
On vous retrouve, Benjamin Haute-Couverture, avec l'amiral Lozier qui est avec nous par téléphone après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Regard sur la place du fait nucléaire dans les équilibres stratégiques. Nous retrouvons nos invités, l'amiral Jean-Louis Lozier, conseiller auprès de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et Benjamin Haute-Couverture, historien et politologue, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Amiral Lozier, on a parlé dans la première partie de l'émission de la doctrine de dissuasion. J'ai cette question, est-ce que la doctrine de dissuasion a évolué au fil des années? Et j'ai cette interrogation sur démocratie versus État autoritaire. Est-ce qu'on peut dire que pour les démocraties, la doctrine est celle d'une dissuasion défensive, là où pour les États autoritaires, elle serait de dissuasion offensive? Amiral Lozier.
En ce qui concerne la doctrine française, il y a eu quelques évolutions, mais finalement assez mineures par rapport au cœur que j'ai rappelé tout à l'heure, à savoir la défense de nos intérêts vitaux contre une menace d'où qu'elle vienne, donc contre une menace étatique d'où qu'elle vienne, et quelle qu'en soit la forme. Donc ça, c'est ce cœur-là, hein, qui constitue, je dirais, l'essentiel de la doctrine, n'a quasiment pas évolué dans sa formulation depuis les années 60. En revanche, il y a eu quelques évolutions. Typiquement, j'ai parlé de la plus grande prise en compte du facteur européen dans la compréhension de nos intérêts vitaux. Donc ça a été une évolution que l'on a vue depuis, très clairement depuis une trentaine d'années. Il y a eu également une évolution dans les menaces que fait peser la dissuasion nucléaire sur l'adversaire. Dans les années 60 et les années 70, notre arsenal nous permettait uniquement de faire de l'anticipé. Aujourd'hui, nos armes nucléaires sont destinées à menacer, d'infliger des dommages inacceptables sur les centres de pouvoir, c'est-à-dire sur les centres névralgiques de l'adversaire, qu'ils soient politiques, économiques ou militaires. Donc il y a eu cette évolution dans laquelle ce ne sont plus les populations en tant que telles qui seraient les objectifs de la dissuasion française. Donc voilà pour quelques évolutions de la doctrine, mais dans les grands principes, elle est restée la même depuis le début des années 60.
Je vous interromps juste deux secondes, mais c'est important pour nos éditeurs de bien comprendre cette question d'attaque sur les populations. On est bien d'accord, ça a été le cas pour Hiroshima et Nagasaki en 1945, amiral Lozier.
Non, il s'agissait là à l'époque de marquer encore l'esprit de l'adversaire. Et c'était une arme d'emploi. Là encore, dans l'objectif de notre dissuasion, il s'agit bien de menacer, mais de ne jamais passer à l'emploi. Ce qui repose sur la crédibilité de cette menace. Et comme l'a rappelé tout à l'heure Benjamin Haute-Couverture, ça repose sur notre capacité à se mettre en état d'infliger ces dommages. Et donc, il faut pour cela posséder une dissuasion qui soit crédible d'un point de vue politique, c'est-à-dire que le décideur soit crédible, mais que également l'outil nucléaire soit crédible d'un point de vue technique et que sa mise en œuvre soit crédible d'un point de vue opérationnel. Et c'est bien, une dissuasion repose sur ces trois piliers.
Alors, pardon, et on n'a pas répondu à cette autre question, mais peut-être je vais proposer à Benjamin Haute-Couverture d'engager la réponse sur démocratie versus État autoritaire entre dissuasion offensive d'un côté, défensive de l'autre, défensive pour les démocraties, offensive pour les États autoritaires. Que vaut ce distinguo et...
C'est un distinguo qui est difficile à détailler de manière certaine. En tout cas, c'est un distinguo qui est très dynamique, si vous voulez. Parce que si vous regardez la lettre des doctrines de tous les États dotés, alors je mets de côté les États possesseurs qui n'ont pas signé le TNP ou la Corée du Nord qui en est sortie et qui n'a pas encore abouti une doctrine nucléaire consolidée, intégrée, digne de ce nom.
TNP pour traité de non-prolifération.
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé en 68, entré en vigueur en 1970 et au titre duquel 5 États sont dotés de l'arme nucléaire, les autres sont des États non dotés de l'arme nucléaire. Alors pour tous ces États et également l'Inde et le Pakistan, vous verrez qu'à peu près systématiquement, l'arme nucléaire est une arme décrite d'abord comme une arme défensive. Donc il n'y a pas d'arme offensif dans les discours, dans la doctrine. Et de ce point de vue-là, je vous rappelle qu'il y a encore une dizaine d'années, la Russie n'était pas considérée comme un État autoritaire. C'était un État démocratique, certes une démocratie un petit peu spéciale, musclée, mais enfin c'était une démocratie. La Chine, qui n'est pas une démocratie libérale, faisait partie quand même et continue de faire partie du Concert des Nations avec lesquelles on dialogue quand on le peut, et on ne distingue pas chez elle une doctrine qui est offensive. Au contraire, les Chinois depuis 1964 nous rabattent les oreilles sur le non-usage en premier de leurs armes nucléaires et qu'ils sont les fers de lance du désarmement nucléaire mondial, etc. etc. Réalité doctrinale qui commence à être de plus en plus invalidée par la réalité du terrain et l'augmentation quantitative comme qualitative de l'arsenal chinois, à tel point qu'on va se demander à un moment donné si leur doctrine ne va pas se mettre un petit peu à jour pour être plus en phase avec la réalité du terrain. Mais il n'y a pas, si vous voulez, de doctrine de pays qui seraient des pays autoritaires, c'est-à-dire ce que sont en train de devenir, disons, la Chine et la Russie, et du P3, le Royaume-Uni, la France et les États-Unis, démocratie libérale, qui s'en tiendraient à une doctrine défensive. Non, c'est plus complexe que cela, mais dans tous les cas, normalement, la dissuasion nucléaire est une doctrine défensive qui entend empêcher l'adversaire de s'en prendre aux intérêts vitaux des États qui en disposent, parce que cette notion d'intérêt vital, qui est une notion très française, on la retrouve sous diverses formes à peu près dans tous les autres pays, y compris la Russie, et ça a été rappelé par le porte-parole du Kremlin la semaine dernière quand il parle de menaces existentielles sur l'État russe qui justifierait l'utilisation de la dissuasion nucléaire. Donc vous retrouvez à peu près, pas le détail de la grammaire, mais les mêmes principes dans tous les États dotés de l'arme nucléaire. Et après, en réalité, on se rend compte qu'il y a des distinguos, voire des distorsions qui se font dans la réalité de la pratique. Et en particulier, ce que fait la Russie aujourd'hui est une forme de sanctuarisation agressive qui est extrêmement offensive en réalité de sa dissuasion nucléaire et qui est parfaitement irresponsable pour un État du P5 qui est garant de la norme de non-prolifération et de désarmement mondial, qui nous forcera, si vous voulez, à nous poser la question de l'ordre nucléaire mondial, à la tête de quoi nous avons un État comme la Russie, naturellement. Mais il n'y a pas cette distinction entre régime politique, non.
Alors justement, ce sera intéressant d'essayer de comprendre dans quelle mesure la guerre en Ukraine va changer les fondamentaux stratégiques. Amiral Lozier, j'aimerais qu'on aborde la question de l'âge nucléaire. Alors, on évoquait Hiroshima, Nagasaki, août 45, qui a fait rentrer le monde dans ce qu'on appelle le premier âge nucléaire. Ensuite, la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 89, qui a ouvert le deuxième âge nucléaire avec la perspective de réduire les arsenaux. On nous dit dans le troisième âge, quelle photographie peut-on faire de ce troisième âge et quelles sont ses spécificités ?
Eh bien, ce troisième âge va de pair avec un bouleversement, je dirais, de l'ordre mondial que l'on observe et dont la crise ukrainienne n'est peut-être que le prémisse. Hein. Dans les discours de Poutine et de M. Lavrov, on entend en permanence la crise en Ukraine, l'opération spéciale de maintien de la paix, pour reprendre les termes russes, est en fait le début de la fin de la domination de l'Occident et des États-Unis, surtout, hein, sur le monde. Et maintenant, grâce à ça, nous mettons en échec, et c'est le discours du président Poutine, hein, nous mettons en échec l'OTAN, hein, et donc maintenant, le monde va pouvoir, rompre un peu la mainmise, l'unilatéralisme des États-Unis. Il y a un peu ça. Et derrière, on comprend bien qu'avec l'agitation de la menace nucléaire pour intimider, hein, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Benjamin de couverture, c'est-à-dire qu'il y a bien cette notion de sanctuarisation agressive pour couvrir une agression contre un pays indépendant. Demain, peut-être faut-il craindre la même chose pour une action de la Chine vis-à-vis de Taïwan. Et donc, on voit bien qu'à l'heure actuelle, il va falloir effectivement revisiter un certain nombre de fondamentaux nucléaires pour comprendre comment, dans ce nouvel âge nucléaire, finalement, on pourra retrouver, je dirais, une stabilité ou ce qui peut ressembler à un état de stabilité le plus achevé.
Alors, pour comprendre, là aussi, sur quoi peut porter ce réexamen des fondamentaux nucléaires sur la base de ce qui se passe en Ukraine, Benjamin Haute-Couverture ?
Bah, écoutez, on ne peut pas, pour le moment, j'insisterai sur une chose d'abord. Ce qui va être absolument déterminant dans les mois et les années à venir, c'est la détermination des États-Unis à garantir la sécurité de leurs alliés. Et je ne parle pas seulement de l'OTAN, je parle également de toute l'Asie-Pacifique. Parce que ce qui est en train d'être regardé de près, c'est aussi le comportement des Américains dans le cadre de l'Alliance Atlantique par les Sud-Coréens, par les Taïwanais, par les Japonais. Et ça pourrait être le cas pour d'autres pays, en particulier du Moyen-Orient. Si les États-Unis engagent ou confirment ce que sont les craintes d'un certain nombre d'observateurs, c'est-à-dire un relatif désengagement de tout un tas d'aires géopolitiques où ils étaient très engagés, alors il y aura véritablement le risque d'entrer dans un troisième âge nucléaire qui serait extrêmement périlleux, c'est-à-dire que nombre d'États vont se poser la question du lancement de programmes nucléaires pour eux-mêmes garantir, d'un point de vue central, national, leur sécurité par une dissuasion nucléaire. En tout cas, c'est un risque à venir. Donc je pense que ce qui est central, c'est la détermination américaine à assurer la garantie de sécurité nucléaire de leurs alliés. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce que l'on voit pour le moment, des 5 semaines de conflit en Ukraine, c'est que la dissuasion nucléaire fonctionne. Mais elle fonctionne également, elle fonctionne dans tous les sens. Elle fonctionne également pour un pays comme la France. Elle fonctionne pour les pays de l'OTAN. Pour le moment, rien ne permet de dire le contraire. Ce que je veux dire là, c'est que le caractère assez traditionnel, conservateur, voire orthodoxe de la dissuasion nucléaire est assez confirmé par ce qui se passe en ce moment. Et par conséquent, il y a une espèce de robustesse de la dissuasion nucléaire qui est validée mais au contraire qui n'est pas dépassé par les événements. Donc je pense que la dissuasion nucléaire redevient vraiment centrale dans le jeu des relations internationales, ou plutôt elle ne le redevient pas. En réalité, elle l'a toujours été, je pense, mais elle est exprimée de manière assez forte en ce moment. Et donc, je pense que c'est une manière, et d'ailleurs, on le voit bien, votre émission, l'intérêt des uns et des autres depuis 5 semaines pour la dissuasion nucléaire, montre que cette grammaire est toujours valable. Ce n'est pas un retour de la dissuasion, c'est une confirmation de la dissuasion nucléaire dans le monde. Et je me méfie un petit peu, moi, du premier, du deuxième et du troisième âge, parce que je crois qu'il y a des facteurs de long terme qui sont très forts en réalité, et peut-être plus en termes d'évolution que de modification des fondamentaux. Donc j'ai plutôt l'impression qu'on est dans une séquence de confirmation des fondamentaux de la dissuasion nucléaire. Et je sais que ce disant, mon avis, n'est pas partagé par tout un tas de monde qui pense qu'en réalité, la dissuasion nucléaire est obsolète, etc. Moi, je ne le crois pas, je crois plutôt le contraire.
Pour abonder peut-être dans le sens de Benjamin Haute-Couverture, en tout cas, il y a un débat, bien sûr, depuis longtemps, sur la nécessité ou pas d'un désarmement nucléaire mondial, etc. En tout cas, l'exemple ukrainien, et ce que soulignait à l'instant Benjamin Haute-Couverture, amiral Lozier, c'est donc cette force de la dissuasion nucléaire qui donne raison aux experts d'une certaine manière, qui estiment que la disparition de l'arme nucléaire ne ferait qu'ajouter au désordre. Qu'en pensez-vous ?
Oui, je crois indéniablement. Aujourd'hui, est-il envisageable que le président Poutine abandonne ses armes nucléaires ou qu'on le convainque de le faire ? Personne n'est capable de le convaincre d'abandonner ses armes nucléaires. Personne n'a été capable de convaincre le président Poutine d'envahir l'Ukraine. Donc, a fortiori, pour ce qui constitue l'ossature de l'outil de défense russe, on ne voit pas aujourd'hui comment un pays comme la Russie abandonnerait son arme nucléaire. Donc pour une démocratie libérale comme la France, aujourd'hui vouloir adhérer au traité d'interdiction des armes nucléaires et donc nous engager nous-mêmes dans un désarmement unilatéral, ce serait simplement criminel. C'est-à-dire que ça nous mettrait à la merci, nous, pays bénéficiant d'un régime politique qui est le nôtre et dont nous bénéficions de toutes les libertés que nous exerçons quotidiennement, nous nous mettrions à la merci d'États dictatoriaux. Et ceci est inadmissible. Donc, il faut bien évidemment conserver une dissuasion nucléaire crédible.
Alors, l'arme nucléaire, elle crée entre les nations qui la possèdent et les autres une différence de statut essentielle, Benjamin de Couverture. Est-ce que tout cela peut nous amener à craindre une prolifération de l'arme nucléaire dans le monde ?
Bah écoutez, de ce point de vue-là, les facteurs de ce débat n'ont pas changé. À l'évidence, l'arme nucléaire est un marqueur de puissance. On ne peut pas dire le contraire. Dire que la dissuasion nucléaire est un facteur de la stabilité stratégique ou qu'un monde exempt d'armes nucléaires sera plus sûr qu'un monde dans lequel il y a l'arme nucléaire, c'est fondé sur des croyances. On peut en débattre pendant longtemps et ce sont des beaux débats. Mais en réalité, il y a un point qui est un fait absolument central, c'est que l'arme nucléaire est un facteur de puissance. Et donc, l'arme nucléaire, la possession de l'arme nucléaire ou le désarmement nucléaire sont des facteurs de mobilité de cette puissance et de répartition de mobile de cette puissance dans le monde. Et donc, à l'évidence, un certain nombre d'États, mais ça fait longtemps que ça dure, se posent la question de faire aboutir un programme nucléaire militaire pour accéder à la puissance pour accéder à la puissance régionale en particulier. Et nous sommes dans un monde où émergent des puissances régionales, que ce soit l'Iran, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit la Turquie, que ce soit l'Indonésie, que ce soit l'Inde, etc. Un petit peu partout. Et donc se pose la question pour ces États de l'attribut de leur puissance. Or, l'attribut fondamental de la puissance aujourd'hui, c'est l'arme nucléaire. Donc naturellement, on n'en a pas fini avec la prolifération nucléaire. À l'évidence, il y a deux cas qui se posent aujourd'hui. C'est la Corée du Nord, mais qui est devenue un État nucléaire, dont on peut aujourd'hui se poser la question de sa doctrine et de ses moyens, puisqu'ils n'ont peut-être pas encore les moyens, par exemple, en particulier intercontinentaux, fiables et réels, d'envoyer une arme nucléaire et de faire valoir leur dissuasion. Mais ils ont l'arme nucléaire. L'Iran a-t-elle l'arme nucléaire ? Non, c'est évident. Est-ce que c'est une puissance du seuil, c'est-à-dire qui va s'accommoder d'une stratégie de seuil consistant à être à la limite d'avoir l'arme nucléaire pour essayer de bénéficier d'un certain nombre des attributs de la dissuasion nucléaire d'un État qui ne serait pas un État nucléaire ? Ça reste à voir. C'est possible. Est-ce que ce sera un État nucléaire ? Moi, je ne le pense pas parce que Israël ne le laissera jamais faire et ça n'a strictement rien à voir avec la renégociation en cours de l'accord de Vienne. Mais pour le moment, ce sont les cas qui se posent. Il pourrait y avoir d'autres cas, comme effectivement l'Arabie Saoudite. Mmh. Mais pour le moment, la question ne se pose pas. Elle reste encore très théorique et elle dépend à nouveau, et je le répète, de la détermination des États-Unis à garantir la sécurité de leurs alliés. Et je pense que là, on a un facteur tal qui n'a absolument pas à voir nationale, mais avec les rapports de force. Mmh. Et donc, je pense que cette question nucléaire est toujours très lisible avec une grille de lecture réaliste et néo-réaliste des rapports entre États. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit, parce que quand on décide d'avoir l'arme nucléaire, après, il faut faire aboutir un programme. Ça veut dire avoir tous les moyens de le faire, ressources humaines, technologiques, industrielles, financières, et ensuite accepter pendant des années et des années d'être un paria de la communauté internationale. La Corée du Nord a su le faire, est arrivée, mais quel autre pays pourrait le faire que la Corée du Nord ? Il y en a très très peu dans le monde en réalité.
Alors, et ce sera la conclusion finalement, et pardon, amiral Lozier, mais on n'a plus le temps. Il est évident que la poignée de main entre le président Trump et le président nord-coréen était du fait de cet attribut de la puissance dont dispose la Corée du Nord. Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci, amiral Jean-Louis Lozier. Je rappelle que vous êtes conseiller auprès de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous étiez avec nous par téléphone, et Benjamin Haute-Couverture, historien et politologue, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Je signale cet ouvrage très clair signé de Pierre Vendier aux éditions du Rocher. Remercie l'auditeur de Géopolitique qui depuis l'Asie me l'a signalé. Il se reconnaîtra. Titre de l'ouvrage, La dissuasion au troisième âge nucléaire, et un autre ouvrage, Histoire de la dissuasion nucléaire depuis la Seconde Guerre mondiale, de Dominique Mongin aux éditions André Versailles. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Olivier Roux. À samedi prochain.